Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup donc pour cette invitation qui me fait très plaisir et honneur. Je suis très content de revenir à Madrid pour l'occasion. Autrefois, il y a plus de 20 ans, je suis resté un an ici au service culturel pour la promotion du livre et c'est resté ma ville fétiche, même si je n'y reviens pas très souvent. Je suis revenu d'autant plus... avec d'autant plus de plaisir que j'ai une fille qui étudie ce semestre à Madrid, donc ça me donne l'occasion de venir la voir. Si je n'assiste pas à tout, vous m'excuserez. Alors mon intervention, ça sera peut-être un peu difficile, donc je vais parler en français, ce sera peut-être parfois un peu difficile à suivre, donc j'ai prévu un PowerPoint, l'éternelle présentation PowerPoint, pour donner quelques points de repère. Et puis, désolé, j'utilise beaucoup de technologie, mais c'est parce que je n'ai pas pu imprimer la version. Alors, s'il est un secteur des sciences humaines qui n'a jamais tout à fait écarté les émotions de son épistémologie, c'est bien la théorie ou la critique ou l'étude de la littérature. Mais l'on peut y observer depuis plusieurs années un regain d'intérêt pour la question des émotions, en particulier dans l'examen des liens de la littérature avec l'éthique, l'histoire et la politique. Je me propose donc d'envisager l'hypothèse, conformément à ce qui était prévu dans cet atelier, d'envisager l'hypothèse d'un tournant émotionnel que j'ai appelé tournant pathétique, au risque du double sens de l'expression. Je vais envisager donc l'hypothèse d'un tournant pathétique de la littérature en évoquant le cas particulier de ce que j'ai appelé dans un article récent pour la revue Écrire l'Histoire, une revue de l'Université de Paris 7. Ce que j'ai appelé l'historicisation de la fiction contemporaine. Donc il n'y a pas de hache, ce n'est pas une faute de frappe, c'est volontaire. Je vais m'expliquer sur cette absence du hache. Donc un cas particulier de l'historicisation de la fiction contemporaine, je prendrai un exemple français parce que c'est celui qui m'a semblé le plus explicite. Et en observant comment cette évolution donc, traduit l'ambition de faire de nouveau de l'émotion, un pouvoir, ou plutôt peut-être une puissance de la littérature. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner que j'ai codirigé un petit volume collectif sur l'émotion puissance de la littérature. Ça aurait peut-être été plus judicieux de le signaler. Mais bon, c'est un ouvrage un peu mineur. Enfin, je ne suis pas très très content en fait de ce livre, donc ce n'est pas très grave. Alors, j'avais une petite citation de Derrida qui est encore plus obscure que mon titre, mais ça va s'éclairer. Un premier temps donc sur ce tournant pathétique affection. Par là, j'entends d'abord l'affection particulière de la théorie pour la métaphore spatiale. Pensez au saut épistémologique. On a beaucoup utilisé des métaphores spatiales dans la théorie, on aime beaucoup ça. Le saut épistémologique ou le saut dialectique, c'est le saut du tigre dans le passé chez Walter Benjamin, par exemple, dans les thèses sur le concept d'histoire. Pensez au champ symbolique, à la frontière des connaissances, au ciel des idées, à la constellation des temps. Par exemple, Hans Robertiaus, dans l'histoire de la littérature, évoque une notion qui tient à une métaphore spatiale aussi, avec l'horizon d'attente et l'idée que la multiplicité hétérogène se recompose en l'unité d'un horizon commun, comme le ciel réunit à chaque instant une multitude d'étoiles éloignées dans le temps. Très belle phrase qui est le seul moment de poésie de Hans Robertiaus, qui au demeurant l'a lui-même piqué à Kant, puisque c'est Kant qui, dans son seul moment de poésie aussi, évoquait la loi morale en moi et le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Il y a des métaphores que j'aime bien, comme par exemple le buisson de Nietzsche. C'est une image que j'utilise souvent pour mettre en garde mes doctorants. Vous savez que Nietzsche reprochait à la raison occidentale de retrouver derrière le buisson, ce qu'elle avait préalablement déposé derrière le buisson. C'est toujours un bon avertissement pour la recherche quand vous commencez une thèse. Attention à ne pas retrouver derrière le buisson ce que vous avez préalablement déposé derrière le buisson. Une autre métaphore un peu particulière, mais je vais aller plus vite parce que je vais prendre trop de temps sur mes métaphores, c'est l'image du baron de Münchhausen qu'utilise Adorno pour évoquer la crise de l'universalisme après la guerre, l'impossibilité de sortir du relativisme. Et il utilise cette image du baron de Münchhausen qui essayait de sortir du marécage en se tirant par les cheveux. Bon, là, on est allé un peu plus loin, un peu trop dans le détail pour les métaphores spatiales. Donc, je reviens à la métaphore de ce colloque, le tournant, le giro. Le plus célèbre, c'est évidemment le tournant. Le plus célèbre tournant, c'est le tournant linguistique. Linguistic turn, qui est une expression employée dès 1953 pour évoquer, sous l'influence des formalistes russes, de Wittgenstein et du cercle de Vienne, le parti pris d'une épistémologie nouvelle inspirée de la linguistique, des sciences du langage, et touchant plus largement, dans les années 50 et 60, aussi bien à la philosophie, à l'esthétique, aux sciences sociales et historiographiques, qu'à l'analyse littéraire, dont la facture structuraliste a fait couler beaucoup d'encre, voire de sueur, enfin, peut-être pas de larmes quand même, mais avant d'avoir fait l'objet d'une forte désaffection. Déjà, à l'époque du tournant linguistique, ce tournant n'empêchait pas d'autres voies d'être explorées, en littérature, Blanchot, l'école de Genève, Jean Rousset, Starobinsky, Georges Poulet. On peut dire également que certains ont négocié ce tournant avec plus ou moins de décision et de constance. Par exemple, Barthes l'a épousé à un moment de sa carrière. Roland Barthes, il a pris le tournant linguistique, mais il a pris des voies de traverse. Enfin, il est parti très, très en dehors de ce tournant-là assez vite. Et on peut dire aussi que les lignes assez droites que dessinaient pour la littérature aussi bien Foucault que Derrida plus tard ou Bourdieu ont dessiné des parcours très variés. Mais bon, disons qu'il y a bien eu un tournant linguistique. Par la suite, et en particulier à partir du moment où les systèmes d'inspiration structuraliste ont commencé à se fissurer, on a pu avoir l'impression d'une accélération épistémologique, puisque après le coup de génie du linguistic turn, qui est une très belle idée, on a pu alternativement ou même en même temps, ensemble, parler d'un tournant anthropologique, d'ailleurs en partie attribué au même Wittgenstein, ou plutôt au second Wittgenstein, par exemple dans un livre de Christiane Chauviré. On a pu parler d'un tournant idéologique, en réalité contemporain du structuralisme, sous l'influence d'Althusser et de ses héritiers, qui demeurent encore très présents. On a pu parler d'un tournant éthique, articulé dans sa version anglo-saxonne à la philosophie analytique, par le biais des théories de l'émotion comme forme de la cognition, je vais y revenir. On a même parlé, on peut parler d'un tournant cognitiviste aussi, on a même parlé d'un tournant théologique, en vérité pour la phénoménologie française, bon, ce n'est pas très important. Ça fait beaucoup de tournants, hein, c'est-à-dire que là, on ne sait plus trop où on en est. Et, Frédéric Lordon évoque dans son dernier ouvrage, La société des affects, l'idée d'un rallye de montagne, on passe son temps à tourner. Il est désormais impossible, d'ailleurs, de distinguer tout à fait un tournant d'un autre, tellement ces virages sont rapprochés. Sans doute cela est-il conforme, d'ailleurs, à l'hypothèse que j'évoquais en titre d'une compression du présent. La Gegenwartsschrumpfung, je ne sais pas si je prononce bien, qu'analyse dans la lignée de la théorie critique Hermann Lübbe, en rejoignant l'idée du phénomène majeur aujourd'hui de l'accélération historique, culturel, technologique, scientifique, informationnel et social, ce régime-temps dont le sociologue allemand Hartmut Rosa juge, avec raison, me semble-t-il, après Reinhard Koselleck, qui est le théoricien des régimes d'historicité, qui a évoqué cette accélération du temps, un régime-temps dont Hartmut Rosa juge qu'il est l'une des grandes forces invisible, irrépressible et indiscuté d'exercice du pouvoir politique, économique et social. Je vous recommande ce texte qui, moi, m'a un peu libéré dans une page, notamment avec une page qui explique que il est non seulement il est normal, mais il est prévu que nous soyons toujours en retard d'une tâche ou de plusieurs tâches, que nous soyons toujours en retard, en particulier de beaucoup de réponses à nos mails. Ce qui m'a extraordinairement libéré le jour où j'ai lu cette page. Et qui explique que c'est un système social, politique, orchestré, que de nous mettre dans une position de culpabilité à l'égard de ce type de réalité dans le travail. Alors cette compression, accélération du présent aidant, dira-t-on aujourd'hui que c'est au tour, si je puis dire, du tournant émotif, émotionnel ou pathétique, de manifester ses effets en affectant la recherche théorique, quitte à nous faire définitivement sortir de la route sur ce rallye de montagne. Certains historiens semblent craindre, justement, comme Christophe Prochasson, dans un ouvrage qui s'appelle « L'Empire des émotions, les historiens dans la mêlée », semblent craindre que les émotions nous fassent un peu sortir de la route de la recherche historiographique, en particulier pour ce qui concerne Christophe Prochasson. De fait, comment qualifier ce tournant ? Si le tournant est dit, est-ce qu'il faut le qualifier de pathétique au risque de l'ironie, d'empathique, d'affectif ? Lui affecter un nom n'est pas chose facile. Si le tournant est dit empathique, il n'est peut-être pas foncièrement différent du tournant éthique. Je renvoie par exemple à... j'évoque par exemple en cela l'ethical criticism, la critique éthique qui, aux États-Unis en particulier, est très importante, qui est une réinterprétation contemporaine de toute la tradition néo-aristotélicienne par la voie... Par la voie de la philosophie classique, par exemple chez Iris Murdoch, le grand écrivain anglais qui est aussi une philosophe, ou par la voie de la philosophie analytique chez Martha Nussbaum, dont j'ai cité ici quelques ouvrages. Alors mon atelier de demain, mon petit atelier de demain, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde, mon petit atelier de demain portera en partie sur Martha Nussbaum et la critique éthique. Cette critique éthique cherche vraiment à associer cognition et émotion sous la forme d'une réflexion sur la façon dont le récit, l'imagination du récit permet d'instancier, de donner l'idée par empathie des problèmes moraux et même politiques qui se posent à une société démocratique, en réglant le cours, en produisant les effets des émotions clés, vertueuses, selon Martha Nussbaum, pour la démocratie. C'est un courant qui est lié très directement à la notion de justice héritée de John Rawls et à celle des capacités fondamentales, les capabilities, héritées d'Amartya Sen. Si le tournant est dit affectionnel, bon, affectif serait un peu faible. Alors, je choisis des mots français, mais en fait, on peut trouver les équivalents espagnols facilement. Si le tournant est dit affectionnel, il est plutôt contemporain du retour du spinozisme, d'une théorie de l'affect. Dans les sciences humaines et sociales, il y a tout un grand courant de retour de Spinoza dans les sciences humaines et sociales aujourd'hui. Par un geste de refondation, qu'il soit d'inspiration post-marxiste ou non, à visée plus ou moins insurrectionnelle, de la puissance de la multitude contre la légitimité, l'autorité weberienne. C'est notamment le cas dans un ouvrage collectif d'Yves Citon et Frédéric Lordon, donc un littéraire et un économiste, sociologue, philosophe. Lordon est un peu tout à la fois. Spinoza et les sciences sociales, de la puissance de la multitude à l'économie politique des affects, qui est vraiment un objet, un travail actuel de recherche très fort sur le retour de la... non pas tant de l'émotion que de l'affect, au sens où l'affect serait directement sous l'emprise de la condition politique. Si le tournant est dit pathétique, au sens de l'émotion conçue comme forme et véhicule de la cognition, alors il n'est pas très différent ni du tournant éthique ni du tournant cognitiviste. S'il est dit pathétique au sens, bon, je vais aller plus vite, parce que, au sens des grandes catégories de l'affection physio-psychologique, par exemple, on a beaucoup travaillé sur la tristesse et la mélancolie dans la littérature, et maintenant on travaille plutôt sur la honte et la pitié, qui sont des émotions centrales aujourd'hui dans l'étude des émotions en littérature. Alors, il y a une parenté évidente avec le tournant anthropologique de la recherche qui essaye de penser l'homologie possible entre le devenir de l'espèce humaine et le devenir de l'homme. Donc, plutôt que de chercher à qualifier ce tournant, ce qui devient un peu pathétique lui-même, tous mes adjectifs eux-mêmes, et mon entreprise devient, je le sens, un peu pathétique ou consternante, je vois des regards d'incompréhension, je suggérerais bien de considérer ces tournants comme autant de mouvements de redistribution des accents sur la triade originelle, logos, ethos, pathos, que je reprends d'Aristote, car en réalité, tous ces tournants épistémologiques consistent à mettre l'accent plutôt sur l'un ou l'autre de ces trois termes. Triade qui, chez Aristote, a d'abord une fonction rhétorique, c'est persuasion logique par la disposition du discours, persuasion morale par le caractère de l'orateur, persuasion émotive par la passion suscitée chez l'auditeur. Cette triple fonction rhétorique a une grande postérité littéraire à travers sa réinterprétation chez Cicéron, placere, docere, moere. Je ne vais pas commenter ici, je signale juste que chez Cicéron, moere, ça a une fonction non seulement, ça signifie non seulement émouvoir, mais aussi mettre en mouvement, susciter le mouvement. Bon, cette triade fait du tournant pathétique une question qui touche toujours à l'articulation entre langage, discours, action, comportement et émotion ou affect. Disons qu'on peut choisir de privilégier tel ou tel terme. Le tournant pathétique, ça met l'accent sur le dernier terme, l'émotion affect, mais sans jamais perdre le lien avec les deux autres, dans l'idée d'un échange communicationnel qui a toujours partie prenante avec une stratégie de persuasion, une rhétorique de séduction. C'est vrai, il y a eu un versant pragmatique de cela, notamment issu du grand ouvrage de Kendall Walton qui s'appelle « Mimesis as Make-Believe on the Foundations of the Representational Heart ». On aurait pu parler d'un tournant pragmatique, d'ailleurs, mais bon, peut-être pas la peine d'en rajouter. C'est vrai sur le versant pragmatique, c'est vrai sur le versant cognitiviste et anthropologique, par exemple, chez Jean-Marie Schaeffer, pourquoi la fiction ? Et c'est encore plus vrai sur le versant éthiciste, le versant éthique, donc celui de Martha Nussbaum, que j'évoquais, ou celui du courant très puissant actuellement des philosophies du care, du soin, hérité en particulier depuis un ouvrage fondateur, In a Different Voice, de Carol Gilligan, jusqu'à, bon ça j'ai donné la référence de la traduction française, je présume que ça a été traduit en espagnol, Un monde vulnérable pour une politique du care de John Tronto. Les philosophies du care sont vraiment des philosophies qui essayent de penser le rapport entre ethos, logos et pathos à partir de la notion du soin et puis aussi des notions de l'agency, du fait de prendre actualité, de prendre acte par la voix, et la notion de la vulnérabilité. On parle même d'ailleurs, la dernière mode de ces théories, c'est la creep theory. Donc, j'ai un collègue à Harvard, l'an dernier, qui m'a expliqué « Oh là là, mais les théories du care, c'est déjà dépassé. Les queer theories, c'est déjà dépassé. » Alors bon, je me suis un peu méfié parce que j'ai vu l'annonce d'une journée d'études qui s'appelait les Post-Transsexual Studies. Aux États-Unis, on est dans le post-transsexual studies. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mon avis, c'est que c'est straight studies, mais bon. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, on est passé. Maintenant, la grande mode, c'est la creep theory. C'est-à-dire cripple theory, la théorie du handicap, où on essaye de penser à partir du handicap le système des représentations. Donc, je vous le dis, parce que si vous voulez être vraiment à la pointe, il faut travailler sur ça. Alors, ces philosophies ont en commun l'idée que l'intelligence n'est pas séparée des affects et ont en partage plus ou moins explicite l'idée que ce sont les femmes qui ont permis de s'en apercevoir. Alors là, c'est là où ça pose un petit peu problème, parce qu'évidemment, il y a les théories féministes, les queer studies hurlent quand les care studies disent que ce sont les femmes qui sont les femmes, enfin bon, qui pratiquent le soin. Alors, vous voyez, cette éthique est ancrée à la fois dans la possibilité de l'écoute, de la relationnalité, d'un sens de l'attention, avec l'idée que cela est enraciné dans l'expérience morale des femmes. Donc, il y a une dimension en même temps assez réactionnaire dans une partie de cette philosophie. Mais, par ailleurs, il y a quand même des réflexions intéressantes, en particulier sur l'éthique de la vulnérabilité. Je renvoie à un ouvrage de Marc Crépon, professeur de philo à l'École normale supérieure, « Le consentement meurtrier », pour qui la vulnérabilité, je cite, « c'est cette donnée structurelle de l'existence qui fait que le cours de la vie peut être entravé, contrarié ou compromis par des blessures, des épreuves, des bouleversements qui l'affectent dans le plus ordinaire de son expérience, la possibilité de se loger, de se vêtir, de se nourrir, d'étudier et de travailler. » Alors, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de m'arrêter plus longtemps, parce que sinon je ne vais pas pouvoir expliquer mon histoire d'historicité sans âge. Donc je vous renvoie à cet ouvrage très intéressant sur cette dimension plus générale de la vulnérabilité. Logos, ethos, pathos donc, sont redistribués selon les lignes de force d'une pensée désormais soucieuse de toutes les affections, depuis l'individuel jusqu'au mondial. Donc chez Marc Crépon, il y a l'idée que c'est une pensée cosmopolitique, c'est une pensée qui touche jusqu'au souci du monde. C'est une question qui n'a jamais quitté véritablement la littérature. En fait, l'émotion, c'est une vieille lune en littérature. Hein. Elle n'a jamais quitté la littérature, et ni même l'articulation entre logos et ethos pathos, voire même Barthes. Je vous renvoie à un des textes assez précoces de Barthes, 1960, La réponse de Kafka, qui évoque la dimension morale même du mensonge littéraire. Alors, que nous dit le tournant pathétique du lien logos-ethos-pathos pour conclure ce premier point? Il met l'accent sur la dissibilité de l'émotion comme puissance, au sens de potentialité pour l'action. Je voulais évoquer une thèse au jury duquel j'étais récemment, qui portait sur la poésie politique chez Aragon, Oden et Brecht, et qui évoquait justement cette politisation comme étant tirée directement de l'émotion, à partir d'une citation d'Anna Arendt, qui disait que ce qui propulsa ces poètes profondément apolitiques sur la scène politique de notre siècle, ce fut le zèle compatissant, l'attirance profonde envers les malheureux, sentiments qui sont à distinguer de tout besoin d'agir en vue du bonheur public ou de tout désir de changer le monde. Il y a une dimension émotionnelle de l'action politique qui vient aussi de cette époque, et en particulier, évidemment, la guerre civile espagnole a été un moment extrêmement important sur ce plan dans la conscience européenne. Voir les poèmes justement d'Aragon, Espagne 37, de Oden, Spain, ou de Brecht, Spanien. Mais c'est aussi, d'ailleurs, Brecht, c'est celui qui a inventé les 99%. Vous savez, we are the 99%. Nous sommes les 99%. C'est un des slogans de Occupy Wall Street, un des slogans des indignés. La notion d'indignation, qui est très forte depuis los indignados, quoi, les indignés, je le signale, elle est présente déjà chez Spinoza comme un des fondements de l'action politique. Et je renvoie, c'est une citation de Spinoza citée par Frédéric Lordon sur cette importance de l'indignation. Donc le tournant pathétique conduit à une forme, disons, d'indignation ou d'empowerment qui trouverait sa source dans une contagion de l'émotion ou dans une disposition émotive singulière à laquelle contribuerait directement l'énonciation littéraire. Alors je vais rentrer dans un exemple particulier que j'ai appelé le roman historique ou l'historicisation du roman, de la fiction. Donc roman historique, sic, mais j'aime bien cette œuvre de Kay Rosen qui utilise sic et qui montre ma pathologie, qui traduit ma pathologie particulière. Je prendrai pour exemple, donc il s'agit d'évoquer la les polémiques qu'il y a actuellement sur la façon dont la littérature mélange fiction et écriture référentielle et cherche à susciter des mécanismes d'empathie qui ont des conséquences, enfin, des implications éthiques assez graves ou importantes, en particulier sur le plan de l'écriture de l'histoire. Je souhaite prendre comme exemple un roman français qui s'appelle Yann Karski de Yannick Enel, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a suscité une grande polémique en France entre historiens et littéraires. Il y a un très bon article de Patrick Boucheron dans Les Annales, un numéro sur les savoirs de la littérature de 2010, auquel j'avais moi-même participé, pas sur Yann Karski, un très bon article de Boucheron sur cette controverse qui a en particulier associé Annette Wieviorka et Claude Lanzmann, Claude Lanzmann qui était particulièrement furieux de ce roman. Et ce roman permet d'évoquer ce que j'ai appelé l'historicisation de la fiction, et je m'explique sur cette notion. Ce que j'entends par là, c'est une dynamique récente du roman français et plus largement européen, qui consiste à délaisser le paradigme de la fiction de l'histoire au profit de celui de la fiction de l'histoire, selon une distinction que je vais expliquer. J'entends par là l'affaiblissement de ce qu'on a appelé le paradigme indiciaire, hein, Carlo Ginzburg, le paradigme indiciaire, et l'affaiblissement donc du modèle dominant depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui dans la littérature européenne, de ce que j'appellerais le roman de l'historien, au sens où le narrateur y imite une figure possible ou fantasmatique d'un historien en une fiction d'enquête indiciaire attachée à la remontée des traces, à l'écho des voix, à l'archéologie du présent. C'est un paradigme hérité de Pérec et qui a suivi les théorisations philosophiques et historiographiques jusqu'à nos jours. Donc, abandon ou enfin, diminution de ce paradigme au profit d'une pratique nouvelle, d'une fiction du témoin, d'une fiction du témoignage oculaire, que j'appelle par un apparent barbarisme, donc, roman historique. Incarnation imaginaire du témoin, fiction d'énonciation biographique ou autobiographique, qui actualise radicalement le temps historique et sa puissance émotive, tout en affichant avec son objet une distance plus ou moins ironique par l'ostentation, l'exhibition du dispositif narratif. J'aurais pu prendre comme un exemple, un proto-exemple, si vous voulez, de cela, l'autobiographie del General Franco de Manuel Vázquez Montalbán, qui est déjà une forme de fiction du témoignage, mais il pose des problèmes très particuliers, beaucoup plus particuliers que ceux que je veux évoquer. Alors, cette omission du H, je m'explique pour cette possibilité d'omettre le H, cette omission du H a une fonction sémantique précise. Elle vise à réactiver la différence originelle entre l'histor en grec archaïque, que l'on trouve par exemple chez Homère dans l'épopée proto-historique, au sens de témoin oculaire. Alors là, c'est la translittération latine, mais en grec archaïque, on n'a pas forcément donc, le H, l'aspiration. Donc la distinction entre histor en grec archaïque, au sens de témoin oculaire, et l'histor en grec attique, par exemple chez Hérodote, au sens de l'historien, celui qui permet de définir par la suite l'historia comme une enquête de type judiciaire. L'histor, avec un H, chez celui qui fait l'enquête et le compte-rendu de l'enquête, hein, selon le modèle de l'historia latine, enfin grec, puis latine. Ce ne sont pas à l'origine deux mots différents, mais deux usages différents du même mot, que recouvre morphologiquement une différence d'accent ou d'esprit à l'initial. En réalité, histor en grec archaïque pouvait avoir un esprit doux. Donc on n'est pas obligé de le translittérer avec un H. Enfin, on ne doit pas le translittérer avec un H en latin. Alors que histor chez Hérodote prend toujours un esprit rude, ce qui conduit à l'utilisation d'un H. D'où ma citation de Derrida au début sur la. Ce n'est pas une différence de lettre, c'est juste une différence d'esprit. Benveniste évoque le passage de l'histor témoin à l'histor juge par l'intermédiaire d'une hésitation de sens dans l'Iliade, où l'occurrence d'histor s'apparente au juge-arbitre qui prépare l'arbitère latin, le témoin-arbitre, le témoin entière qui peut juger et non plus le témoin-martyr c'est-à-dire le passage du martyr au témoin entière. Et Hartog évoque l'idée qu'il s'agit tout autant d'un garant ou même d'un mnémone, c'est-à-dire un homme mémoire, celui qui fait, qui constitue les personas, qui constitue les gens en témoin de ce qui s'est réellement passé. Alors mon idée, c'est que le roman contemporain essaye de revenir à une figure de l'écriture de l'histoire qui n'est pas la figure principale de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, la figure de l'enquête, la figure de l'enquête, la remontée des traces, mais au contraire, choisit la prise de pouvoir d'une parole qui devient une fiction du témoin oculaire, qui consiste à prendre la parole à la place du témoin, à s'incarner soi-même en témoin oculaire de l'histoire, et à offrir par là une espèce d'autopsie, une vue par soi-même au présent du passé. Bon, je passe sur quelques... Donc ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il s'agit de faire désormais de la position de celui qui n'a pas été témoin, on pourrait l'écrire en une seule, celui qui n'a pas été témoin, non plus une faiblesse, un doute et une hantise, comme c'est le cas en particulier depuis Primo Levi, depuis que Primo Levi a évoqué l'idée que le seul témoin, le témoin intégral, c'est celui qui a disparu. Donc réagissant à cette tradition depuis Primo Levi jusqu'à nos jours de la faiblesse du témoin, de l'impossibilité du témoignage, des écrivains choisissent de renverser entièrement, là c'est un unhiro, c'est vraiment un tournant, choisissent de renverser entièrement cette faiblesse en force et de faire de celui qui n'a pas été témoin l'occasion d'un coup de force, le coup de force d'une autorité auto-instituée. Il s'agit donc de faire de celui qui n'a pas été placé sous le couperet de la grande hache de l'histoire, pour reprendre un jeu de mots de Pérec, une force, d'où l'intérêt de la suppression du H. C'est que celui qui n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas été touché par lui-même, par le génocide, par les génocides, et encore moins donc par les guerres qui précèdent, au moment où les témoins disparaissent, les témoins de la Première Guerre maintenant, bientôt les témoins de la guerre civile, bientôt les témoins de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les témoins disparaissent, faire de celui qui n'a pas été sous le couperet de la grande hache de l'histoire une force nouvelle. Je vois que je suis trop long. L'exemple, c'est Jan Karski. Bon, j'avais d'autres choses à dire, en particulier sur l'essayiste allemand Enzensberger, mais je n'ai pas le temps. L'exemple, j'ai le temps quand même de parler un peu de cet exemple. Tengo tiempo?
Oui, encore.
L'exemple donc que je voulais évoquer, c'est celui de Jan Karski. Vous n'avez sans doute pas lu ce roman, je ne sais pas si vous avez lu ce roman. Donc j'explique rapidement comment il est constitué. Il faut prendre un exemple précis quand même pour entrer dans le détail. Dans ce roman, Yannick Enel, quelqu'un qui a mon âge, enfin je ne vous dis pas mon âge, mais quelqu'un de un peu âgé, mais pas trop, qui n'a pas été touché par l'histoire du génocide, ni même dans sa famille, a décidé de prendre l'identité de Jan Karski. Jan Karski, c'est un des justes, un résistant polonais qui a été l'un de ceux qui ont essayé d'arrêter le mécanisme du génocide en allant dès 1942 dans le bureau de Roosevelt pour évoquer le ghetto de Varsovie. Et Yannick Enel, dans son roman, prend la voix de Jan Karski, parle à la place de Jan Karski, par une usurpation d'identité incroyable, très, très forte. Alors, ça a évidemment ulcéré Claude Lanzmann, parce que Jan Karski est un des protagonistes de Shoah, un de ceux qui témoignent dans Shoah. Ça a ulcéré Claude Lanzmann, et Annette Wieworka a condamné cette idée que l'on puisse entrer dans un mort comme dans un moulin, en citant Sartre. À vrai dire, je dois expliquer un petit peu comment est fabriqué le roman. À vrai dire, Yannick Enel a pris des précautions pour expliquer ce geste d'usurpation de l'identité. Dans la première partie, le narrateur commente le témoignage de Jan Karski dans Shoah, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il voit en regardant Shoah, le film de Claude Lanzmann. Il dit ce qu'il ressent, donc il y a une dimension d'émotion. Il dit ce qu'il ressent en voyant le visage, le témoignage, les hésitations du corps de Jan Karski dans son témoignage pour Shoah, le film de Claude Lanzmann. Et le narrateur observe les hésitations et croit reconnaître une sorte d'impossibilité d'aller au bout du témoignage. Il pense qu'en écoutant Jan Karski, que Jan Karski n'a pas tout dit là et que ce témoignage n'a pas suffi. La deuxième partie, c'est une deuxième partie du roman. C'est très bizarre. C'est un résumé de l'autobiographie que Jan Karski a écrite en 1944 déjà pour raconter son évasion des camps, sa rencontre, sa visite du ghetto de Varsovie sous la houlette de deux des résistants, des chefs de résistance à l'intérieur du ghetto de Varsovie. Donc il est rentré dans le ghetto clandestinement et il en est ressorti pour, en tant que chrétien et membre du gouvernement polonais en exil, aller dire aux alliés la nécessité d'action militaire et symbolique radicale, c'est-à-dire exécution de prisonniers allemands, propagande contre les camps auprès de la population allemande, bombardement des voies ferrées, bombardement des camps. Et donc, en fait, dans cette deuxième partie, Yannick Enel ne fait que résumer le texte de Karski. Et c'est seulement dans la troisième partie qu'il décide de prendre l'identité et la voix de Karski, un peu avant sa mort, et qu'il livre un monologue qui prétend dire cette vérité que le Karski réel, si l'on en croit Yannick Enel, n'aurait pas pu dire ou n'aurait pas su dire, une vérité que même Shoah aurait préféré de laisser de côté selon Enel. Donc là, j'ai plusieurs passages que je n'ai pas le temps de... Et en particulier, il y a le modèle du cavalier polonais qui sert de modèle à ce personnage, enfin à ce Karski. Donc je laisse de côté parce que je n'ai pas le temps. Si les réactions ont été si brutales, c'est donc parce qu'il y a une usurpation d'identité à l'égard du témoin oculaire. En prenant le nom propre de Karski, qui au demeurant est un pseudonyme, Yannick Enel s'approprie l'autorité d'une certaine vision du témoin. En passant, première partie de ce qu'on pourrait dire le génitif objectif, en passant de la vision du témoin au sens de la vision qu'il a du témoin, le spectacle offert par Karski dans Shoah, à un génitif subjectif, en troisième partie, c'est la vision qu'a le témoin, le spectacle vu par Karski à Varsovie et auprès de Roosevelt. Et il dit ainsi au lecteur, « Voyez ce que j'ai vu », comme s'il revenait à ce Karski fictif de dire le vrai témoignage du personnage historique. Donc c'est un geste extrêmement fort qui est fondé sur un double système d'empathie. Entrer dans la peau de Karski et transformer le témoignage de Karski pour que le lecteur entende un vrai témoignage par-dessus celui de Shoah. Bon, ça a évidemment provoqué des grandes protestations. Il y a même eu toute une polémique secondaire que je n'ai pas le temps d'expliquer parce que c'est un peu compliqué, parce qu'en épigraphe de son roman, Yannick Enel cite un vers de Paul Celan qui dit « Niemand zeugt für den Zeugen », ce qui signifie « Personne ne témoigne pour le témoin ». Et il le traduit par « Qui témoigne pour le témoin ?». Alors on a dit « Mais en plus, non seulement il prend l'identité de Jan Karski, mais en plus il traduit mal l'allemand ». Et en fait, il ne traduit pas si mal l'allemand parce que « Niemand zeugt für den Zeugen », en raison d'un poème de Paul Celan que je n'ai pas le temps d'expliquer, qui transforme le niemand négatif, personne ne témoigne, en un niemand positif, en un nom propre, niemand, un dieu négatif, personne, doué sois-tu personne. En réalité, le vers de Celan dit à la fois personne ne témoigne pour le témoin et personne témoigne pour le témoin. C'est-à-dire qu'il faudrait le traduire comme ça, en barrant le nœud, en le montrant et en le barrant. C'est la force du vers de Celan, qu'on cite toujours comme personne ne témoigne pour le témoin à tort. C'est la force du vers de dire à la fois l'un et l'autre. Et la réponse de Yannick Enel, c'est Qui témoigne pour le témoin? Personne, c'est-à-dire moi. Ou pourquoi pas moi? C'est-à-dire la ruse d'Ulysse. Mon nom est personne. Et d'ailleurs, quand Roosevelt demande à Ian Karski son nom, il dit « Comment vous appelez-vous » dans le roman, enfin, dans la Karski fictif. Roosevelt reçoit Karski, il dit « Comment vous appelez-vous » Et Karski dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai répondu « Nobody ».« My name is nobody ». Alors, bon, ce qui est évidemment la ruse d'Ulysse. Et c'est exactement cela que fait le roman de Yannick Enel. Il cherche à réinterpréter le roman historique, le pouvoir du roman historique, l'empowerment du roman historique qui consiste à s'approprier l'histoire comme si de rien n'était, comme si on pouvait raconter la guerre napoléonienne, comme si on était au milieu du champ de bataille. Ça consiste à s'approprier d'une autre façon l'histoire par le biais d'un récit à la première personne, d'un récit, d'un témoignage oculaire à la première personne, c'est-à-dire d'un ce qu'on appellerait en anglais « eyewitness », qui s'écrirait à la fois « I », l'œil, et « I », je, c'est-à-dire par une forme d'eyewitnessing, de façon de témoigner à la première personne, comme si on était le témoin oculaire. Bon, alors, cette autorité d'emprunt, je l'appelle pour ma part « énergie romanesque », et je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que les quelques inscrits à mon atelier demain pourront avoir l'explication. Et j'avais tout un troisième temps qui revenait à Thucydide et au roman historique du XIXe siècle pour évoquer la conscription fictionnelle des témoins que je passe. Et je citais Suzanne Suleiman par la même occasion. Donc, pour résumer, ce que j'évoque, c'est le passage d'une sorte de modèle historiographique à un modèle historiographique du roman. Voilà, ça, il y avait quand même un quart d'heure, mais c'est passé très vite. Donc, conclusion. En évoquant cet exemple, je ne veux pas trop dépasser, en évoquant cet exemple du roman historique, de l'historiographie du roman, il s'agissait pour moi de montrer un de ces dispositifs textuels dans lesquels, comme disait Deleuze, on peut démêler les lignes du passé récent et celles du futur proche, la part de l'archive et celle de l'actuel, la part de l'histoire et celle du devenir. Quelle est exactement la portée cognitive, émotionnelle et morale de ce type de roman? C'est difficile à dire encore, car ces exemples sont encore relativement limités, et ils sont très ambigus, hein, très difficiles à évaluer. Mais en tout cas, ce que je voudrais signaler, c'est que cette historicisation du roman fait partie de processus hyper volontaristes et hyper empathiques ou hyper pathétiques à l'œuvre dans la fiction contemporaine, dans la littérature contemporaine. On peut évoquer, par exemple, des phénomènes de globalisation, ce que j'appellerais des phénomènes de globalisation volontaire de l'écriture, par lequel un écrivain français, par exemple, va écrire l'histoire de la Hongrie, ou un écrivain anglais, un grand professeur d'Oxford, Peter MacDonald, qui écrit l'histoire de la fin du régime de Ceausescu, par une espèce de prise de possession d'une histoire alternationale, donc non pas de son histoire nationale, mais de l'histoire d'une autre nation. On a beaucoup d'exemples comme ça. On peut observer aussi des phénomènes de détemporalisation volontaire, par exemple, usage de l'anachronie, de l'uchronie, accélération du temps, retour en arrière, dans beaucoup de romans, de plein d'endroits. Des phénomènes aussi d'écriture biodocumentaire, ce que j'appellerais d'écriture biodocumentaire, dans le sillage des fictions biographiques, c'est-à-dire la façon dont certains romans réinventent le récit de vie sans appareil de notes, à partir de témoignages, imitant les docu-fictions de la télévision. Par exemple, Dave Eggers, qui est un romancier américain et qui a écrit un très beau roman qui s'appelle Zeytoun, un très beau récit, Zeytoun, sur le témoignage de quelqu'un qui a vécu l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Et le roman est une sorte de fiction biodocumentaire. Et ce travail-là n'est pas tout à fait étranger à l'importance qu'a prise dans notre temps contemporain l'obligation qui est faite aux immigrants de raconter leur vie pour pouvoir être acceptés dans un pays, pour pouvoir être réfugiés politiques. Et ce travail, par exemple, ce travail de récit de vie qui engage véritablement, du point de vue politique, individuel, existentiel, beaucoup de choses, est un travail qui aussi occupe la littérature. Et puis plus largement, toute la potentialité insurrectionnelle du travail sur les voix dissidentes ou les voix subalternes chez beaucoup d'écrivains. Dans toutes ces expériences ambiguës, à la fois naïves et très érudites, qui sollicitent soit la plus grande confiance, soit la plus grande complicité ironique, au risque de manquer les deux, on peut reconnaître, je crois, et je conclus, une forme de réplique contemporaine via l'émotion littéraire à la compression du présent. Voilà, je vous remercie.